Une aventure au Labrador. La côte du Labrador est entièrement stérile, couverte de mornes et de ravins, de marécages et de petits lacs. À bien peu d'exceptions près, pas le moindre arbuste n'ose y réjouir la vue du voyageur par son feuillage vert ou le garantir par son ombre des feux du soleil d'été. Car je dois dire que, nonobstant le froid piquant qui y règne ordinairement vers les milieux de l'hiver, il y fait souvent une chaleur excessive l'été. Pas une clôture ou une haie, point de chemin. Seulement, l'on aperçoit par-ci par-là, à travers les roches, un petit sentier s'échappant comme un serpent et allant se perdre tantôt sur la cime d'une morne, tantôt dans une touffe de broussailles. Il faut faire 3 à 4 milles avant de rencontrer une seule habitation humaine. On n'y découvre aucun vestige de religion. Pas une petite chapelle, pas même une croix, ni aucun monument qui puisse donner à l'étranger une idée que des chrétiens y habitent. Tout y est vaste, solitaire. Tout y semble désolé, sombre. Le silence n'y est interrompu que par les cris du gibier sauvage qui s'y trouve en abondance, le croassement du corbeau ou le bruit des vagues de la mer. Et c'est pourtant là que volent, de différentes parties de l'Europe et de l'Amérique, Anglais, Écossais, Irlandais, Jerseys, Canadiens et autres, et c'est là qu'ils s'y établissent. L'amour du gain est un si puissant mobile. L'hiver est le temps de la chasse aux daims au Labrador. C'est alors que l'amateur de cet amusement de fatigue peut donner plein essor à sa passion, pourvu qu'il ait des jambes et du courage. Avec quel plaisir il s'acheminera au lever du soleil radieux, les raquettes aux pieds, le havresac sur le dos, le fusil sous le bras ou sur l'épaule, laissant derrière lui, à mesure qu'il avance, une suite de figures ovales sur la neige scintillante. Mais aussi à quel danger ne s'expose-t-il pas? Le soleil maintenant si beau disparaît en un instant. Sous un voile lugubre de vapeur épaisse, le vent souffle avec violence, la neige s'élève en tourbillon. On ne voit déjà plus. Où aller? Seul? Tantôt sur le sommet d'un rocher escarpé, sur le bord d'un précipice, tantôt entre deux murs de neige. Il ne se souvient plus de quel point il est parti. Il fait froid, le vent le perce, mais s'il ne marche pas, il va geler. Mais il ne voit pas à un pas devant lui. C'est alors qu'il faut de la prudence et de la présence d'esprit, et l'on verra ci-après ce qui se pratique d'ordinaire en cette occasion. Je me trouvais, l'hiver dernier, à une de ces réunions joviales si fréquentes au Labrador dans la saison des neiges. On y chante, on y danse, on y pratique la gymnastique, on s'y amuse en un mot. L'anecdote y a aussi son tour, et voici celle que je recueillis de la bouche d'un des convives, homme probe et véridique. La conversation était tombée sur la chasse aux daims. « Il est beau, dit-il, il est noble cet amusement. C'était autrefois ma passion, mais le temps n'est plus. Je ne puis maintenant faire que quelques pas, et encore c'est avec peine. Que ne donnerais-je pas pour pouvoir marcher comme autrefois? « Oh, racontez-nous, s'il vous plaît, s'écrie une voix. « Et quoi, mon ami? Votre aventure? Je ne l'ai pas encore, oui. » « Avec plaisir, pourvu que vous ayez assez de patience pour m'écouter jusqu'au bout, car je suis très mauvais conteur. Cependant, comme la vérité n'a pas besoin du secours de l'art, je m'en vais vous dire tout crûment ce qui m'est arrivé il y a... oui, il y a de cela 10 ans. » Et notre interlocuteur, ayant avec complaisance rempli de tabac et allumé sa pipe, ce qui est indispensable, commença à peu près en ces termes. Par un bel après-midi du mois de février, m'étant muni de ce qui était nécessaire pour la chasse, je pars avec un de mes employés, un jersey. « Chumnoun, quel biota !» dit mon compagnon, s'adressant à moi en son jargon, « j'espère qu'il ne fera pas mauvais tchitôt. Mais dites-moi donc, quelle est la distance d'ici à votre cabane ?»« Ma cabane ? Elle est peut-être à 12 000 de chez moi. »« Oh, je n'ai rien, nous y serons avant la nuit. » Nous marchâmes en silence l'espace de 5 à 6 milles quand mon compagnon, m'adressant de nouveau la parole, « Mais diable, dit-il, voyez donc, n'ai-je pas une piste de serre que je vois là, Chumnoun ?» En effet, nous avions devant nous une longue trace qui se perdait dans le lointain. Nous prîmes la piste et hâtâmes le pas. Nous marchâmes ainsi plus de 3 heures, mais n'apercevant rien et la nuit s'avançant, nous prîmes le chemin de la cabane où nous arrivâmes. Il faisait noir. Comme vous le savez, le daim se tenant toujours à une distance d'au moins 3 ou 4 lieues dans les terres, il est d'usage, chez les chasseurs, de s'ériger, à cette distance, une cabane où l'on a un poêle et tout ce qui peut la rendre tant soit peu confortable. Nous y passons quelquefois des semaines entières. Nous entrâmes donc, fîmes un feu et de la lumière, et après avoir dépêché une partie de nos provisions avec un appétit que notre marche n'avait pas servi à diminuer, nous allumâmes la pipe et commencions à nous ennuyer lorsque mon compagnon, animé sans doute par la situation des lieux et le silence qui régnait autour de nous, le rompit soudain. « Croyez-vous aux esprits ? » me demanda-t-il. « Aux esprits ? » lui répliquai-je en riant franchement. « Farceur, va !»« Quoi ? Vous riez ? » ?»« Eh ben, moi, je vous dis qu'il y en a. »« En as-tu vu ? » ?»«
Oui, monsieur. » »« C'est-à-dire, non, mais d'autres en ont vu pour moi. » »« Même, je peux vous nommer la personne, là. »« Elle peut vous le dire comme moi. » »«
Eh bien, qu'a-t-elle vu ? » ?»«
Ce qu'elle a vu ? » C'est horrible ce qu'elle a vu. Aussi bien que je m'en vais vous raconter cela. C'était par une nuit d'automne. Il faisait noir comme chez le...
Il n'eut pas le temps d'achever. Des hurlements affreux se firent entendre à quelques pas de nous. Mon compagnon tressaillit, mais reprenant ses sens.
« Chumnum, dit-il. Les loups. Mon fusil. »
Il sort. Je le suis avec mon arme. Nous regardons de tous côtés. Rien. Bientôt, nous entendons au loin le hurlement des loups. Nous rentrons et le Jersey allait reprendre son histoire de revenant. Mais me voyant m'étendre sur le grabat où nous devions prendre du repos, il suivit mon exemple et nous nous endormîmes. Le lendemain matin, avant l'aurore, nous étions sur pied. Pas le moindre nuage au ciel. Quelques étoiles brillaient encore çà et là et nous avions l'avant-goût d'un des plus beaux jours.
« Chounoun, me dit mon compagnon. Après avoir bien dormi, j'espère que nous pourrons bien courir, et si je n'oxie pas au moins 3 cerfs à ma part, je veux bien être un chien, là.
Allons, allons, lui dis-je, ne fais pas tant de redomons. Tu pourrais bien n'en pas avoir un seul, et comment pourrais-tu en tuer 3? Tu n'as pas oublié les lunettes, j'espère.
Non, non, tout est là, montrant le havresac.
Ces lunettes, voyez-vous, qui sont ordinairement vertes, sont absolument nécessaires à un chasseur s'il veut s'exempter des tortures du mal Dieu. Il n'est pas rare de voir des personnes qui ont l'imprudence de ne pas s'en servir devenir aveugles pour plusieurs jours pendant lesquels elles souffrent cruellement. Notre déjeuner pris, nous partîmes. Après avoir erré çà et là presque toute la matinée et n'avoir rien vu, nous prîmes enfin le parti de courir chacun dans une direction différente. Vous sentez que cela nous donnait double chance. Nous nous séparâmes donc en nous faisant la promesse réciproque de nous rencontrer à la cabane si nous ne nous voyions pas ailleurs. Je pars, m'acheminant vers un endroit où j'avais été heureux plus d'une fois. Je n'avais eu garde de souffler mot de ceci à mon camarade, car, voyez-vous, un chasseur, comme un musicien, conserve toujours en lui-même une espèce de jalousie envers les autres. Je marche pendant 1 heure. Arrivé au point où je voulais aller, je n'aperçois rien. Cependant, je prends la résolution de ne pas bouger de là. Ce lieu était un lac autour duquel s'élevaient à divers intervalles plusieurs petites éminences. Je me place en embuscade derrière l'une d'elles et j'attends. Je commençais à trouver le temps long lorsque soudain j'aperçois un daim courant, ou plutôt volant vers moi, laissant derrière lui un trait de sang sur la neige. J'arme aussitôt mon fusil et, couche en joue, il arrive. Je tire et le daim tombe. Je m'approche, ma balle avait porté au cœur. « Mais qui diable l'a donc ainsi blessé ?» me dis-je en examinant une des jambes dont s'échappait un filet de sang. Je n'attendis pas longtemps. Mon compagnon arriva à toutes jambes et soufflant comme une baleine.
« Ah ! Chumnum, notre bourget ! Vous l'avez donc happé ! Merci ben de la peine, mais c'est moi qui ai commencé à le démolir, à moi l'honneur. »
« Mais où serait-il, mon brave, si je n'eusse été ici ?»
« Ah, pour chier de ça, j'ai des jambes, je l'aurais bien attrapé, il s'affaiblissait déjà. »«
Chut, ton fusil est prêt ?»«
Viens, Aya. »
Et à l'instant, nous nous tapîmes derrière la même petite éminence. Nous voyons s'avancer vers le lac comme une forêt mouvante. Une centaine de daims s'en venaient nonchalamment et musant, tantôt broutant les buissons ou les touffes de mousse qui se montraient en quelques endroits à travers la neige, tantôt folâtrant comme des chiens, ou bien s'arrêtant tout à coup et flairant de tous les côtés. Je me hâtais de recharger mon fusil. Ils avaient pris le lac. Ils approchaient de nous. « Tiens-toi prêt, » dis-je à mon compagnon. « Nous tirerons ensemble. »«
Oh, chnounoun valet, j'sommes tout prêts, nous bourgeais. »
Il était vis-à-vis de nous. Bragne, 2 daims demeurèrent sur place et le reste s'était déjà évanoui comme une ombre.
« Vlamétrait, » s'écrie mon compagnon. « Comment? T'es 3? Et moi, ai-je tiré pour rien? Vélo mettrait, vous dis-je. Je vous le disais ce matin, eh bien les voilà. Bernemé à présent.
Écoute, mon brave, qui a tué le premier?
C'est May.
Tu es un crapaud, lui dis-je d'un ton un peu brusque, car il me vexait.
Ah, notre bourgeois! Tout autre nom que celui-là, s'il vous plaît.
Voyez-vous, cette épithète est à un jersey, ce qu'est celle de Jack Bull ou de Roast Beef à un anglais.
Ne vous fâchez pas, continua-t-il, je vais vous expliquer la chose. Quand je vous ai léché, je n'ai pas fait 500 que j'ai aperçu au moins 70 cerfs. J'en ai léché un, et s'en étant venu dans cette direction-ci. Si je ne l'avais pas blessé, il aurait sûrement suivi le reste, qui s'est enfui vers un point opposé, là, choumoum.
Mais qui l'a culbuté?
Oh, il fallait le laisser courir, il était à moi.
Moi, je vous dis que non, et nous verrons.
Et comment oses-tu dire que ces deux-ci sont à toi?
Ben clair, j'avais deux balles.
J'en avais trois.
Possible, notre bourget, mais vous avez visé trop, je vous ai remarqué.
Mortel cra... J'allais prononcer le mot, mais mon opiniâtre de Jersey, ne pouvant en souffrir l'articulation, m'imposa soudain le silence en me mettant la main sur la bouche.
Nous arrangerons chena, nous arrangerons chena, dit-il. Et le grabuge en resta là.
Comme vous n'ignorez pas, il est rare que de semblables altercations ne s'élèvent pas entre les membres d'une partie de chasse. Chacun a la modestie de se croire le plus expert, soit comme tireur ou comme piéton, et, si ses actions ne répondent pas à ses jactances, il a un piètre-fusil, dira-t-il, ou bien il fait long feu, ou fausse amorce. Ses raquettes sont trop grandes, trop petites, ou peut-être trop lourdes. Il aura mille autres raisons à vous donner.
« Ah, ça !» dis-je à mon compagnon. Je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Nous allons les couvrir soigneusement, car, messieurs, les renards en feraient un agréable festin. Et nous allons nous en retourner.
Mais Chumnoun, notre bourget, il est encore trop de bonne heure. Je parie que je veux abattre trois autres cerfs avant la fin de la journée.
Eh bien, tu n'as qu'à rester. Moi, je vais aller chercher le comitique et les chiens pour emmener cette charge à la maison. Pour marcher avec plus d'aisance, je vais te laisser mon fusil. J'ai le temps de me rendre avant la nuit et je reviendrai au clair de lune avec un autre de mes hommes. Je coupai les langues des trois daims pour les emporter avec moi comme des trophées. C'est ce qu'un chasseur ne manque jamais de faire. «
En cas que tu t'éloignes, n'oublie pas d'enterrer nos défunts !» criai-je à mon compagnon en m'éloignant.
Il faisait beau, mais beau à ravir. Outre que je me sentais léger comme une plume, débarrassé que j'étais du poids de mon fusil, je foulais une petite neige mobile, comme du sable, et qui ne gênait nullement la raquette. C'était un charme de voir comme j'allais. Je volais quasi. Je dois ajouter que ce qui me stimulait encore plus que tout cela, c'était les trois langues dont j'étais le possesseur. Trois langues, pensais-je, et cette idée me rendait tout rayonnant de joie. Avec quel plaisir j'allais montrer ces trois diamants de ma couronne, car j'étais aussi heureux qu'un roi. De quelle satisfaction n'allais-je pas jouir en les étalant avec une indifférence feinte sous les yeux de mes gens ébahis. Et je ne me sentais pas marcher, et je ne faisais pas attention à un brouillard épais qui se formait insensiblement derrière moi. Je ne m'en aperçus que lorsque de gros flocons de neige commençaient à se glisser dans l'air et que le soleil ne m'apparaissait déjà plus. Je me hâtais davantage car je redoutais cette apparence atmosphérique au Labrador. Je connaissais les dangers qui la suivent d'ordinaire. D'ailleurs, j'avais encore beaucoup de chemin devant moi. Cependant, après avoir examiné les pointes à l'horizon, « Ah bah !» me dis-je, « ça ne sera rien, j'en suis sûr. » Je me trompais. Bientôt le vent s'élève et siffle avec force. La neige tombée se déchaîne contre celle qui tombe et il s'en forme un amalgame affreux. Je respirais à peine et j'allais en avant lorsque, tout à coup, la neige s'échappe de dessous mes pieds. Il me semble voler. Je suis navré, suffoqué. J'étouffe et après plusieurs petites saccades, je sens de nouveau la neige sous moi. J'étais tombé, je n'en doutais pas, du haut de quelque morne, mais de quel côté étais-je parti? Vers quel point allais-je diriger mes pas? J'aurais à peine pu me discerner la main en me la tenant à la hauteur des yeux. Il faisait déjà nuit. Qu'allais-je devenir? Périr? Non, me dis-je, il ne faut pas encore perdre espoir. Ce qui m'encourageait un peu, c'est que le froid n'était pas grand. J'arrache mes raquettes de mes pieds et m'en sers pour me creuser dans la neige une espèce de fosse dans laquelle je me tapis, m'étant préalablement enveloppé la figure dans un grand châle qui me servait de ceinture afin de n'être pas étouffé par la neige. Je me couvre de mes raquettes et de neige, et me confiant à la Providence, j'attends ainsi le retour du beau temps, ou au moins celui du matin. J'étais fatiguée. Mes paupières se fermaient malgré moi. Mais je ne voulais pas dormir, car si le froid me prenait, je m'exposais à périr. Contraint donc à veiller, je me pris à penser à l'heureuse chasse que je venais de faire, aux éloges qu'on allait me prodiguer, à l'effronterie de mon jersey, qui prétendait avoir à lui seul toute la chasse, enfin à bâtir des châteaux en Espagne. Il y avait 2 ou 3 heures que j'étais là. Il me sembla tout à coup ne plus entendre le vent. Je me découvris le visage et levai la tête. Jugez de ma surprise lorsque je vis que tout était calme autour de moi, que le ciel était brillant d'étoiles et que la lune venait ajouter à tout cela l'éclat de sa lumière bienfaisante. En un instant, j'étais debout. J'avais mes raquettes aux pieds et mon châle me saignait les reins. Je n'eus pas fait 30 pas que je me reconnus. Je fis involontairement une gambade de joie lorsque je me trouvais tout à coup face à face avec un homme. Et qui? Mon brave Jersey. « Mais diable, lui dis-je, d'où viens-tu? Chomnoun de la cabane! »« Mais dis-moi donc, étais-tu en chemin pendant le gros temps? »« Ma fée, Ven. »« Oui? Vraiment, tu es un preux, et tu mériterais la croix d'honneur s'il y en avait une à donner. »« Oh, je sais pas tout, notre bourget, j'ai encore tiré 5 fois depuis que je vous ai léché. »« Possible. Et à quel succès? »« 5. Encore 5? Mais tu veux badiner? » Vous le verrez demain. Montre-moi les langues. Et il me les montra. Horrible, me dis-je. Il a 5 langues et je n'en ai que 3. Oh, que ne suis-je resté plus longtemps? Appelez mes crapauds maintenant. Oh, mais mon ami, est-ce que tu te souviens encore de cela? Si, je m'en souviens. Et mon compagnon me regarda d'un air qui me surprit. Et bientôt je l'entendis tenir le soliloque suivant. Vais-je le faire? Je le puis, il est sans armes. J'ai un bon fusil. Crapaud, hein? Je ne savais que penser, et je commençais à avoir peur, car je le connaissais d'une disposition vindicative à l'extrême et enclin à s'offenser de la moindre chose, et il ne considérait pas comme une petite injure l'épithète que je lui avais adressée dans un moment de colère. Cependant, un moment après, je l'entendis continuer. Non, je vais agir autrement. Mais s'il refuse, je le tends à mes pieds, chlomnoun. Et puis, se tournant vers moi, « Arrêtez-la, Bourget, » dit-il. Je m'arrête. « Vous m'avez insulté tantôt. Vous n'auriez pas dû le faire. Et si vous ne me faites apologie à l'instant, je vous brûle la cervelle. » Et il me couchait en joue. « Jean, lui dis-je, sûrement que tu n'aurais pas le cœur d'ôter la vie à ton maître. Hâtez-vous ou je tire. Moi, lui dis-je, moi, faire apologie à mon serviteur. Crois-tu m'intimider en... » Je n'eus pas le temps de finir. « Zing !» Une balle me siffla aux oreilles. Je fais un saut pour saisir le fusil, mais Jean disparaît comme un éclair. J'emploie toutes mes jambes pour le rattraper. Impossible, je le perdis au détour d'une petite hauteur. C'est un démon, me dis-je. Quelle audace! Je n'aurais jamais pensé qu'il en fût capable. Mais il n'en est pas quitte. On ne s'échappe pas d'ici comme de dans une ville. Je marchais toujours, regardant à chaque pas autour de moi, car mon homme aurait bien pu se tenir en embuscade derrière quelque éminescence et me tirer comme on tire un cerf. Bientôt, il me sembla distinguer à la clarté incertaine de la lune quelque chose de blanc qui se glissait vers moi. Je crus me tromper et je me frottai les yeux à diverses reprises. Je regardais. Le fantôme coulait sur la neige. Je pouvais le distinguer plus clairement à mesure qu'il approchait et je ne puis m'empêcher de le comparer à l'esprit dans Hamlet de Shakespeare. J'étais pourtant loin d'être superstitieux et de croire aux esprits, et cependant la peur me gagnait malgré moi. Je m'arrête. Le fantôme vient se placer devant moi et me regarde en face. Je crois découvrir des traits connus. Je veux le toucher. Ma main se perd dans l'espace. C'est alors que mes cheveux se dressent sur ma tête, que ma langue devient sèche, que je commence à trembler et mes jambes plient sous moi. J'essaie de m'éloigner et le fantôme marche avec moi. Je veux parler. Ma langue demeure muette. Je me frotte les yeux de nouveau. Il est toujours là. Je mourrais de peur et me sentais défaillir lorsque soudain... « Qu'arriva-t-il? » demanda notre orateur en s'adressant à moi. « Je ne sais, lui répondis-je. Le fantôme disparut? Ou peut-être vous parla? Rien de cela. Eh bien, mais vous croyez donc aux esprits maintenant?
Mon ami, vous pourrez juger dans l'instant si j'ai droit d'y croire ou non. » Et notre orateur se leva, et, ayant rechargé et rallumé sa pipe, se rassit, se croisa les jambes et les bras, et gardait le silence. « Eh bien, » fis-je, en montrant de l'impatience de ce qu'il ne continuait pas. « Je me sentais défaillir lorsque soudain... »« Je m'éveillais, » dit-il, et la salle retentit d'un éclat de rire. Il continua. « Ma rencontre avec Jean et mon fantôme n'était que la production d'un songe, et je me retrouvais dans une fosse à neige avec la cold reality devant moi. Il faisait un froid horrible, la neige était durcie sur moi. J'étais engourdi, je me sentais le cœur malade. Je me levais, le temps était clair, il ne ventait plus. Le jour commençait à poindre. Comme je l'avais pensé, je me trouvais entre deux montagnes. Je marchais avec quelques difficultés pendant une heure autour de ma fosse pour me réchauffer. J'eus beaucoup de peine à y réussir. Enfin, je voulus monter sur une des montagnes afin de me reconnaître, car je ne savais pas encore bien où j'étais. J'essayais en vain de grimper. Je faisais une enjambée et je retombais en bas. Je m'étonnais de ce que j'eusse les jambes si faibles, moi qui, maintes fois, avais gravi contre des rochers beaucoup plus escarpés et plus hauts que celui-là. Tous mes efforts furent impuissants, et je me vis enfin forcé de faire un long détour pour arriver au point désiré. Je connus alors que je n'étais qu'à 3 000 de ma demeure, mais je ne pouvais plus marcher. Je sentais dans mes jambes un engourdissement que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Il faisait un froid. Oh, un froid excessif, et je ne pouvais plus faire un pas. Je m'étends sur la croûte, résolu d'attendre la mort, car j'allais périr, j'en suis sûr. Il y avait peut-être une demi-heure que j'étais là. Je n'avais plus froid. J'éprouvais même des sensations agréables. Je jouissais d'une espèce d'existence que l'on pourrait appeler extase ou enchantement, d'une sorte de bien-être que l'on ressent rarement, lorsque j'aperçus deux chasseurs pas bien loin de moi. Je leur fis signe, ils vinrent à moi. Je leur expliquai ma situation. Ils me prirent par sous les bras et me traînèrent chez moi. J'avais les pieds gelés, messieurs. Je n'ai plus un seul doigt au pied, jugez de mon malheur. Je ne peux plus chasser, moi, qui avais la réputation d'être le meilleur chasseur de la côte. Il avait fini. Nous le remerciâmes, et la danse et les jeux continuèrent.